Buonasera a tutti. Andiamo a parlare della vita di Artemisia Gentileschi. Con l'aiuto di Maria Elena Viviani per la traduzione, ho deciso di dire questa conferenza interamente in italiano. Siete tutti d'accordo?
Bravo!
No, perché tutti parlano italiani qui.
Non è vero.
Bon. Marilène, je suis désolé. Alors, mais tu as travaillé pour rien.
Non.
Hai lavorato molto, ma hai lavorato per niente.
No, sono contenta dei progressi che hai fatto.
Bon, alors je vais parler en français.
Bon, d'accord.
Avant de commencer, je voudrais faire un petit sondage. L'année 2012 a été particulièrement riche en expositions consacrées à l'art italien. Alors, quelles sont les personnes qui ont vu la magnifique expo consacrée à Cima da Corigliano au musée du Luxembourg? Qui a vu la passionnante expo sur la restauration de la Sainte-Anne de Leonardo da Vinci? Qui a vu l'une des deux expos consacrées à Canaletto? Il y en a une qui était associée à Guardi. Qui a vu la belle expo sur les dernières années de Raphaël au Louvre? Qui a vu l'exceptionnelle expo sur Artemisia Gentileschi? Il y a encore du progrès à faire, hein? Bon, une fois de plus, je tiens à remercier Claude Viani qui s'est chargé du montage des illustrations. Un jour, Claude m'a traité de Fidel Castro de la Corfie, parce que je parle toujours trop longtemps. Je ne sais pas si je vais réussir à démentir cette réputation ce soir. J'ai pris le parti de ne pas trop m'attarder sur la biographie d'Artemisia, à l'exception d'un événement important. Pour une biographie détaillée, je vous renvoie à l'excellent livre d'Alexandra Lapierre, qui existe aussi en livre de poche. En revanche, j'insisterai sur l'œuvre peinte. Je me suis limité à l'étude succincte d'une vingtaine de toiles, plus quelques autres pour expliquer. Je voue depuis longtemps une réelle admiration à Artemisia, pour son talent de peintre, bien sûr, mais aussi en tant que femme, pour son caractère exceptionnel, les deux étant indissociables. Elle n'aurait sans doute pas pu devenir un grand peintre en son temps si elle n'avait pas eu une force intérieure inébranlable. Je me souviens encore de ma stupéfaction le jour où, au musée de Capodimonte de Naples, je me suis trouvé, pour la première fois, face au célèbre tableau représentant Judith décapitant Holoferne. Quel choc cette toile avait dû être pour ses contemporains. Depuis, j'avais fait quelques petites recherches documentaires, mais il m'a fallu attendre l'expo de Paris, qui a eu lieu au printemps dernier, je ne sais plus très bien les dates, mais enfin, c'est de mars à juillet 2012, pour voir un bel ensemble de ses œuvres. En effet, c'était la première fois qu'une expo lui était consacrée en France. Il n'y a qu'une seule œuvre d'Artemisia dans les collections publiques françaises. Il n'y en a pas au Louvre. Elle n'est pas la première femme peintre importante de l'histoire de l'art. Sophonisba Anguissola, Lavinia Fontana, deux Italiennes l'ont précédée au XVIe siècle, peut-être parmi d'autres, je vous donne les plus célèbres. Mais Artemisia a eu une très grande notoriété de son temps et l'a conservée à travers les siècles, malgré une longue éclipse. De plus, son talent de peintre est infiniment supérieur à celui de ses consœurs. Clara Peters, une Flamande, Judith Leister, une Hollandaise, ainsi que Louise Moyon en France, sont des contemporaines d'Artemisia. Mais elles se sont limitées essentiellement à la peinture de nature morte ou aux scènes de genre, alors qu'Artemisia s'est attaquée à la peinture d'histoire qu'on appellera le grand genre. Je vous rappelle que la hiérarchie des genres a été codifiée par André Philippien en 1667, à l'époque de Louis XIV, dans le cadre de l'Académie royale de peinture et de sculpture. Au sommet de la hiérarchie, le genre le plus important pour cette académie était la peinture d'histoire, qui recouvrait également les peintures à thème mythologique. Au-dessous, les portraits, au-dessous, la scène de genre, au-dessous, le paysage, et le genre le moins réputé, le moins prestigieux, étaient les natures mortes ou la peinture animalière. Donc Artemisia, elle, s'est attaquée au grand genre, ce qu'on appellera le grand genre quelques années plus tard. C'est Roberto Longhi, célèbre historien et critique d'art, qui a remis à l'honneur l'art d'Artemisia Gentileschi dans un essai publié en 1916, intitulé « Gentileschi, padre et figlia », père et fille. Comme bien d'autres grands artistes qui ont jalonné l'histoire de l'art, tel Alessandro Botticelli, redécouvert par les peintres pré-raphaélites dans la seconde moitié du XIXe, le Greco, redécouvert vers 1890, Johannes Vermeer, redécouvert en 1898, Georges de Latour, redécouvert en 1915, Lubin Bourgeois, etc., les toiles d'Artemisia étaient passées de mode au XVIIIe et XIXe siècle et ont été abandonnées, dédaignées et oubliées dans les palais des puissants de l'Europe entière. On assiste donc, depuis le début du XXe siècle, à la redécouverte de l'œuvre d'une artiste qui a été célébrissime en son temps. Le père d'Artemisia s'appelait Orazio Lomi Gentileschi. Lomi était le patronyme de son père, Gentileschi celui de sa mère. Artemisia signera ses toiles Lomi pendant une période de sa vie. Orazio, le père, passe pour être l'un des 10 meilleurs peintres de Rome. Il est un représentant de tout premier plan du caravagisme romain. Je rappelle que celui qu'on appelle le Caravage, en réalité, s'appelait Michelangelo Merisi, dit Caravaggio parce qu'il était né dans un petit village du nom de Caravaggio. Ses œuvres étaient exposées partout. Je parle des œuvres d'Orazio. Vers 1605, son épouse Prudencia meurt en couche à 30 ans au terme de sa 7e grossesse. Accablé, Orazio commande une cérémonie funèbre somptueuse. Prudencia sera enterrée à Santa Maria del Popolo. Orazio avait 43 ans, Artemisia avait 13 ans. Née le 8 juillet 1593, elle était l'aînée des enfants. Elle avait trois frères qui ont survécu, puisque d'autres sont morts en couche. Elle a sans doute travaillé dès l'âge de 11-12 ans dans l'atelier de son père. Elle était le seul apprenti de sexe féminin dans tout le quartier des peintres de Rome. On appelait un apprenti « il garzone ». Elle était le garzone de son père. Elle prépare les toiles, broie les piments, brosse les fonds des tableaux d'Orazio. Orazio emmène Artemisia sur tous ses chantiers. Elle voit son père peindre. Elle fait donc un apprentissage artistique dans l'atelier paternel, aux côtés de ses frères, et démontre par rapport à eux un talent bien plus élevé. Apprenant le dessin, la manière de mélanger les couleurs et de donner du brillant au tableau, peu à peu, elle posséda toutes les bases de la peinture. Par ailleurs, l'éducation d'Artemisia laissait à désirer. Elle ne sortait pas de la maison, Orazio la gardait cloîtrée, parce qu'elle était assez jolie et il se méfiait des conséquences éventuelles. Elle ne savait pas écrire et lisait avec peine. Après la mort de Prudencia, Orazio et Artemisia ne travaillaient qu'en s'insultant. Joueur et buveur, Orazio était décrit comme sombre et secret. Il se montrait assez ambivalent envers Artemisia. Elle était son disciple et son modèle. Il l'utilisait comme modèle nu. Elle était aussi son meilleur apprenti. Orazio sentait en elle un vrai talent, mais il craignait qu'elle ne réussisse pas. Ou peut-être avait-il peur qu'elle réussisse trop bien. Très tôt, dès 1608, Artemisia avait une quinzaine d'années, 15 ans, Artemisia devait déjà avoir commencé à étudier son propre visage et son propre corps. Elle avait une chevelure blond cuivré, des épaules et des formes rondes. Alors, il m'a dit d'appuyer sur le bouton, j'appuie sur le bouton. Ce premier tableau est d'Orazio Gentileschi. Il est intitulé Sibylle. C'est un tableau qui se trouve à Houston. Pour ce tableau, Artemisia a certainement servi de modèle. Elle a souvent posé pour son père. Les femmes ne posaient pas à l'époque, à l'exception des prostituées qui se faisaient payer très cher. Faire poser sa fille lui permettait de peindre des figures féminines à moindre coût. La loi voulait que les peintres rendent la subtilité des formes féminines en s'inspirant des marbres de l'Antiquité. Mais nul ne respectait la loi et les prostituées vendaient grassement leur temps de pause. En revanche, l'artiste bien connu des courtisanes ou aimé d'elles pouvait reproduire leur anatomie gratuitement. Donc, c'est pour vous donner le visage d'Artemisia va revenir régulièrement. Là, c'est le visage peint par son père, hein, mais on va la revoir, peint par elle-même. Ce tableau s'intitule « Vierge à l'étang » et il est dans une collection particulière. Il date de 1608-1609. Artemisia avait 15-16 ans. On croit souvent que le premier tableau connu de la main d'Artemisia est la Suzanne et les vieillards. En réalité, en février 2010, cette toile est passée dans une vente parisienne. 2010. Elle représente une vierge à l'étang et deux autres versions étaient connues, l'une de 1610 qui est à la galerie Spada et l'autre de 1617-1618 qui est au Palazzo Pitti. Cette œuvre de prime jeunesse est d'une composition assez traditionnelle mais de belle qualité. Tuzia, une voisine et amie des Gentileschi, avait été chargée par Orazio de surveiller Artemisia et de la chaperonner lors de ses rares sorties. À l'époque, Tuzia venait de donner naissance à un bébé, et Artemisia a probablement pris pour modèle ce bébé afin de peindre l'enfant Jésus. Voici Suzanne et les vieillards, qui est dans une collection bavaroise. Le livre de Daniel rapporte que la belle Suzanne était observée et désirée par deux vieillards durant ses promenades dans son jardin. Un jour, elle est abordée pendant son bain par le vieillard qui sollicite des faveurs sexuelles et la menace d'affirmer l'avoir surprise en galante compagnie si elle refuse. Elle ne cède pas. Les vieillards l'accusèrent à tort, mais Daniel, le prophète, comprit qu'il mentait et les condamna à mort. Quand Artemisia peint ce magistral tableau, elle n'a que 17 ans. Elle ne peignait que depuis 2 ans au plus. Elle peint cette Suzanne entièrement nue, à sa propre image. La composition est assez élaborée. Artemisia a placé les deux hommes, qui ne sont pas vraiment des vieillards, au-dessus de Suzanne. Ils complotent et forment une masse sombre unique qui semble peser sur l'héroïne dénudée. La détresse de Suzanne est palpable. Elle est symboliquement prise au piège entre les murets de pierre. Malgré le réel talent d'Artemisia, cette composition présente une telle maîtrise qu'il est probable, en tout cas c'est ce que pensent les critiques d'art, qu'Orazio est intervenu sur la toile, mais elle l'a signée. Et sa signature est comme gravée dans la pierre. Artemisia Gentileschi, Fecit, 1610. Alors, sur l'écran, je ne vois pas bien, mais ça doit être ici. Ah, oups, là, là. Je ne vois pas la souris. Je ne vois pas la souris. Non plus. Hop, et l'image est partie.
Pas en vue.
Bon, je vais faire appel à la flèche lumineuse.
Je sors juste pour retrouver la souris, je suis désolé. C'est comme ça que je peux la retrouver, voilà, elle est là.
On a perdu la souris.
Oui, la souris.
Oh, là, là, c'est le rat. Hein, voilà le progrès. C'est le progrès. On m'a dit, il y a une souris, pas besoin de flèche lumineuse.
Ben, elle a disparu.
Ben, elle a disparu.
Prends la flèche.
Bon, alors, c'est ici. Hein. sous son genou, dans l'ombre.
Tu l'as, la boîte ?
Oui, je peux en avoir besoin, merci. Bon, on continue.
Oui.
Ah, très bien.
Voilà.
Merci. Alors, attends. Alors, regardez le mouvement d'Artemisia, hein. Et regardez donc l'attitude de Suzanne est directement inspirée de la position inversée d'Adam chassé du paradis de Michel-Ange. Alors j'espère que je ne vais pas me tromper, vous voyez, le mouvement est inversé, mais il est inspiré. C'est tout à fait fréquent. À l'époque, les peintres s'inspiraient de leurs confrères, s'inspiraient de leurs prédécesseurs, etc. Et on en verra peut-être un ou deux autres exemples. Évidemment, cet élément se trouve au plafond de la chapelle Sixtine. Sa manière était si étroitement calquée sur celle de son père, alors là il s'agit d'autre chose, il s'agit d'un tableau de Tassi, je continue le commentaire. Je vais rester là-dessus. Que des tableaux clés du début du XVIIe leur ont été attribués à l'un ou à l'autre en diverses occasions. Ça me pose un problème, je vais rester là-dessus. Ah. Survient un événement majeur, le viol d'Artemisia par Agostino Tassi. Nous allons nous attarder un peu sur cet épisode qui a profondément marqué la vie d'Artemisia. Agostino était devenu un ami et collaborateur d'Orazio. Il était surnommé Los Margiasso, qui signifie le fanfaron. Son vrai nom était Agostino Buonamici, mais il avait... Voilà un tableau d'Agostino. Hein. Mais il avait inventé son adoption par le marquis Tassi et avait pris ce nom comme pseudonyme. Peintre assez apprécié, il maîtrisait le trompe-l'œil, le travail de l'espace et la perspective. Il peignait des tableaux et participait à des travaux de décoration pour de nombreux palais et villas de Rome et de ses environs. Orazio et Agostino étaient complémentaires. L'un peignait mieux les corps, Orazio, et l'autre les architectures. Agostino Tassi. Vous voyez la maîtrise de l'architecture qui est absolument évidente. Je vous montre quelques tableaux d'Orazio. Ici, c'est la fête de Calenne di Maggio, c'est le 1er mai au Capitole de 1611. L'embarquement d'Agrippine, vous voyez, il y a essentiellement une grande construction architecturale avec une foule de personnages et au milieu de cette foule, l'embarquement d'Agrippine. Un paysage avec au centre le baptême du Christ. Et ici, hein. Et une marine, vous voyez le côté très baroque des marines d'Agostino. Voici un exemple, je vous ai dit qu'il a collaboré avec Orazio à plusieurs reprises. Hein. Voici un exemple de collaboration entre Orazio et Agostino. Pour agrémenter la Villa Borghese, je vous rappelle que quand on parle de Villa Borghese, il ne s'agit pas du bâtiment, il s'agit du parc, de l'ensemble du parc et de toutes les habitations qui se trouvent dessus. Donc pour agrémenter la Villa Borghese, Scipion Borghese, celui qui a fait construire la galerie Borghese, fit aussi construire le Casino des Muses, un petit pavillon dans le parc, destiné à la tenue de concerts musicaux. Les murs étaient ornés de fresques dédiées à Apollon et aux neuf muses. Le plafond était orné de musiciens, que vous voyez, dans un décor d'architecture. Agostino a peint les éléments d'architecture, c'est une peinture au plafond, hein. Et Orazio a peint les musiciens parmi lesquels Artemisia se promène avec son éventail. Et vous voyez, Artemisia est là, avec son éventail. Et autour des musiciens qui jouent. Donc le travail était bien cloisonné, était bien, ils se complétaient l'un l'autre. Une anecdote en faveur d'Agostino avant de l'accabler. Le peintre Claude Gelée, que nous appelons aussi Claude Lorrain, était dans ses jeunes années destiné à être pâtissier. Et c'est en travaillant comme cuisinier pour le peintre Agostino Tassi que ce dernier fit son éducation dans l'art pictural. Finalement, Claude Gelée s'est formé dans son atelier vers 1620. Agostino, Artemisia et Orazio vivaient à Rome dans le quartier des artistes. Les ruelles de ce quartier étaient l'un des coupe-gorges les plus redoutables d'Europe. Dans ce quartier, entre la Piazza del Popolo et la Piazza di Spagna, il y avait une forte concentration d'artistes de toutes nationalités réunis en factions rivales qui se massacraient entre eux, au sens propre du terme. Ils étaient venus chercher la richesse et la gloire à Rome en travaillant pour le pape, les prélats, les monastères et l'aristocratie romaine. À cette époque, Rome était le cœur du monde artistique. La concurrence était sauvage. À quelques années près, on trouve les Caraches, dont Ludovico est le plus célèbre. Le Caravage, le Dominicain, Giovanni Lanfranco, Pietro di Cortona, Guido Reni, le Guerchin, Gian Lorenzo Bernini, le Bernin, mais aussi Claude Gelée, Simon Vouet, Nicolas Poussin, etc. Il y avait du beau monde. Les artistes se connaissent et s'admirent ou se méprisent. Querelles éternelles, vols, meurtres se succèdent. Le pape arbitre. Mais tous savent que la punition ne sera appliquée qu'aux artistes dépourvus de talent. Mécènes et collectionneurs sont aussi prêts à tout pour obtenir la grâce de tels peintres qui les servent. Voici donc dans quel environnement grandit Artemisia. Agostino était un grand amateur de prostituées et il avait fréquenté les prisons romaines. Je vais revenir sur un tableau d'Agostino quand même, entre autres. Il avait été arrêté pour insultes, coups et blessures sur la personne d'une courtisane qui refusait de coucher avec lui. Il avait tenté de la cribler de coups de couteau en l'injuriant. Les voisins avaient rapporté ses paroles dans leur témoignage. La justice pontificale ne se formalisait pas de telles obscénités, mais à Rome, le port d'armes était interdit, ce qui avait entraîné son arrestation. Comme il trompait sa femme, je parle toujours d'Agostino, celle-ci décida de réagir. En mai 1610, Maria Canodoli, son épouse, l'avait quitté en emportant avec elle 400 écus, une grosse somme, deux timbales d'or et tous les bijoux d'Agostino. À l'époque, les hommes portaient beaucoup de bijoux. Ivre de rage, ce dernier se lança sur les traces de Maria et de son amant. Pour 200 écus, il engagea des professionnels pour liquider Maria. Et il s'en vanta, liquidé au sens propre du terme. Le premier viol d'Artemisia a eu lieu le 9 mai 1611. Agostino avait 32 ans, Artemisia n'avait pas encore 18 ans. Mais Agostino est arrêté le 16 mars 1612, soit 10 mois plus tard. Que s'est-il passé entre-temps ? Je ne vous décrirai pas les circonstances exactes de ce viol, je vous renvoie à la biographie d'Alexandra Lapierre, nous en connaissons tous les détails, grâce aux archives judiciaires où tout a été scrupuleusement consigné et conservé. Il semblerait qu'Agostino l'ait violé à plusieurs reprises après la première fois. Durant les mois qui ont suivi, Agostino a eu la vie belle. Après le viol, Artemisia n'a rien osé dire à son père. Pour calmer les larmes d'Artemisia, Agostino lui promet de l'épouser. Avec cette promesse, il la convainc d'accéder à ses désirs à plusieurs reprises. De plus, Agostino a persuadé Orazio de faire donner des leçons de perspective à sa fille, et il sera le professeur. Artemisia tente de résister, mais son père Orazio insiste, alors elle accepte en pensant à son unique chance de salut, le mariage. Chaque jour, Agostino venait trouver Artemisia. Au bout de quelque temps, elle cessa de lutter et elle répondit à ses désirs. Ils devinrent amants pendant quelques mois. Artemisia était séduite par la faconde, l'assurance et les connaissances d'Agostino. Orazio, bien sûr, ignorait tout. Agostino était devenu amoureux fou d'Artemisia et jaloux. Il était fasciné par la beauté et le talent d'Artemisia, ce qui ne l'empêchait pas de coucher aussi avec Costanza, sa belle-sœur, la sœur de son épouse, qu'il avait aussi violée et déflorée. Ils vivaient ensemble sans être mariés et elle le menaçait de le dénoncer pour inceste s'il la quittait. Elle restera sa maîtresse pendant 30 ans. Agostino continue à promettre le mariage à Artemisia, mais ne tient pas ses promesses car en fait, il ne peut pas les tenir. On va voir pourquoi. Par vengeance personnelle, un certain Giovanni Battista Sciatesi révèle à Orazio le crime de son ami, Agostino, et envoie, envoie une supplique au pape Paul V, Camillo Borghese, dénonçant le viol d'Artemisia. Orazio tombe des nues, il est catastrophé. Interrogé plusieurs fois, Agostino nie tout, mais il est emprisonné. Tassi affirmait que sa femme était morte, assassinée sur son ordre. Dans la perspective d'accabler Tassi, Orazio décide de mener une enquête par l'intermédiaire des membres de sa famille pour connaître le nom des assassins de sa femme et les circonstances du crime. Quand Artemisia lui rend visite à la prison de Corte Savella, Agostino renouvelle sa promesse de l'épouser et lui jure que sa femme est morte. Il voudrait aussi qu'Artemisia revienne sur sa déposition en disant que ce n'est pas lui qui l'a déflorée. En effet, il était passible de mort. Enfin, Orazio reçoit les résultats de son enquête. Il révèle à sa fille qu'en réalité, la femme d'Agostino est toujours vivante. Il a bien tenté de la tuer, mais sans y parvenir. Et les protecteurs de Maria Canodoli, son épouse, toujours vivante, versent de l'argent à Agostino pour qu'il se tienne tranquille. Agostino, toujours marié, ne peut donc pas épouser Artemisia, furieuse. Celle-ci s'allie à son père pour se venger. Commence alors un long procès. Orazio crie vengeance et réclame justice. Il appelle ce viol « mon assassinat ». En effet, le déshonneur d'une fille signifie la mort du père et la fin de toute sa lignée à cette époque. Une femme ne s'appartient pas. Elle appartient à son père quand elle n'est pas mariée, ou à son époux quand elle l'est, à ses frères ou à ses fils quand elle est veuve. Que la fille d'Orazio se soit donnée librement ou non, importe peu, elle est l'un des dépositaires de l'honneur familial. Ce scandale qui impliquait deux peintres importants éclaboussait le milieu artistique de la ville éternelle. Le pape exige une procédure exemplaire. Artemisia devra prouver qu'elle était vierge au moment où Agostino l'a forcée par les témoignages de ceux qui la connaissent. Tout Rome va défiler à la barre. Sculpteur, apprenti, modèle, voisin, tout est enregistré. L'Italie se passionne pour l'enquête. La descente aux enfers d'Artemisia a commencé. Le procès qui marquera profondément sa vie va durer 9 mois. Pour obtenir la vérité, le juge devra tourmenter les corps. La torture s'appliquait indifféremment aux témoins et aux accusés. Cela servait à confirmer leur dire. Après le 7e interrogatoire d'Agostino, qui avait été transféré dans une autre prison plus rude, Artemisia est convoqué devant la cour de justice en présence de son ex-amant. On lui impose un examen gynécologique pratiqué dans des conditions humiliantes. Elle doit jurer sur les Saintes Écritures qu'elle dit la vérité. Et pour couronner le tout, il lui faut prouver son innocence en subissant le traitement de la sibylle. Cela consistait à enrouler une cordelette autour des doigts et à serrer avec un garrot jusqu'à broyer les phalanges. Artemisia est peintre. On lui applique cette torture au risque de lui faire perdre l'usage de ses mains. Comme aucun des deux adversaires n'a changé son témoignage, le juge finit par ordonner de libérer les doigts d'Artemisia. Ses mains sont gonflées et douloureuses, mais elles ne seront pas abîmées. Il semblerait que le juge n'ait pas voulu être trop sévère avec elle. Agostino est condamné à 5 ans de galère ou au bannissement de Rome, mais il avait de nombreux soutiens, des amis peintres, le cardinal Scipione Borghese, le neveu du pape Paul V, qui fera construire la villa du même nom, et il sera libéré finalement assez vite. Dénoncé par son père, trahi par son amant, Artemisia se bat seule. Mais d'où lui vient cette force ? Sa raison d'être est la peinture, l'aventure majeure de son existence. Apprendre, travailler, progresser, se surpasser. Elle a grandi dans un monde d'hommes. Elle tend, elle aussi, vers les rêves de grandeur et de gloire qui hantent tous les peintres du quartier. Cette œuvre est une petite peinture d'Orazio, qui représente David méditant devant la tête de Goliath. C'est une œuvre, je prends des précautions, c'est une œuvre qui mesure 25 cm sur 20. Cette œuvre a été redécouverte quelques semaines seulement avant le début de l'exposition de Paris. Donc c'est une découverte très récente. Orazio a peint sur une plaque de lapis lazuli, ce qui représente un luxe inconsidéré. Je vous rappelle que les bleus intenses ne pouvaient être obtenus qu'avec du lapis lazuli, pierre qui provenait d'Afghanistan. Et la pierre qui servait à obtenir ce pigment coûtaient plus cher que l'or. Cela représente un luxe tel qu'il s'agit sans doute d'une commande du pape Paul V pour en faire présent à un peintre, un prince étranger. Orazio a repris la composition d'une toile plus imposante exposée à la galerie Spada à Rome. La pierre est laissée apparente par le peintre pour figurer le ciel et le ruisseau. Les détails sont peints avec une extrême finesse. On remarque une maladresse, la tache de la cuisse gauche. Je vais y revenir, parce que la musculature est remarquablement peinte. C'est une petite œuvre, hein. Là, ça supporte l'agrandissement sans aucun problème. 25 cm sur 20, j'ai dit. Hein. Mais la musculature est très bien représentée, mais si vous prolongez la cuisse, vous voyez qu'elle s'attache très mal à l'hanche. Et je vais expliquer pourquoi un peu après. C'est une des faiblesses d'Orazio par rapport à Artemisia. Mais c'est une très belle œuvre quand même, c'est une pure merveille. Donc c'est une Danaé d'Artemisia, hein, sur cuivre. Je vous rappelle l'histoire, Danaé, c'est une fille du roi Argos qui a été fécondée par Zeus, qui s'est émue en pluie d'or. Elle donna naissance à Perfée. Cette peinture de jeunesse, 1612, a été réalisée alors qu'Artemisia avait 19 ans et travaillait dans l'atelier paternel. C'est l'une des représentations les plus sexualisées de l'histoire de Danaé. Ce tableau dépeint une Danaé en pamoison, serrant des pièces dans son poing. La pluie d'or s'est transformée en un déluge de pièces, tandis que d'autres s'accumulent de manière évocatrice entre ses cuisses. Les cuisses serrées d'Danaé n'est pas vraiment consentante, elle subit l'acte fécondateur. Zeus ne lui a pas demandé son avis. Remarquons la beauté des draps froissés, des draps blancs froissés du tissu rouge sur lequel Danaé est allongé. Le contraste est saisissant entre la totale nudité de Danaé et sa servante vêtue de blanc et de bleu. Celle-ci recueille les pièces d'or dans les pans de sa robe, mais que veut-elle en faire? Sans doute pas la même chose que Danaé. Vers 1620, Artemisia peindra une Cléopâtre exactement dans la même position. À la place des pièces d'or, Cléopâtre serre un serpent dans son poing. Voici une autre Danaé peinte par Orazio un an après. À titre de comparaison, voici une Danaé peinte par Orazio. Vous voyez que le corps féminin est totalement idéalisé, stéréotypé, presque maladroit, alors que les tissus, eux, sont magnifiques. Je reviens en arrière pour vous montrer la différence incroyable entre ce corps féminin un peu rigide, un peu froid d'Orazio et le corps extrêmement réaliste et sensuel d'Artemisia, qui utilisait toujours son propre corps pour peindre les corps nus féminins. Je vais donc en profiter pour dire quelques mots sur ce qui différencie l'art d'Artemisia de celui de son père. Orazio est une peinture très mesurée. Il s'attache à l'équilibre de la composition, à l'élégance des personnages, au raffinement des poses. Tout est composé et réfléchi. Artemisia a une peinture plus théâtrale. Elle peint avec énergie des scènes de violence extrême. On va en voir. Ce qui ne l'empêche pas de parsemer ses toiles de détails délicatement travaillés. Orazio a peint de rares nus et ne se sent pas très à l'aise dans les représentations anatomiques. Je vous rappelle ce qu'on a vu tout à l'heure avec David, hein, où il y avait cette erreur anatomique flagrante. Il étudie peu les spécificités d'un corps particulier. Artemisia excelle dans cette discipline. Elle a peint de nombreux nus intégraux, souvent provocateurs, prenant son propre corps pour modèle. Artemisia se démarque rapidement de son père. J'aime dire qu'Artemisia peint comme un homme des sujets de femmes. Elle a surtout peint des femmes, et la plupart des hommes qu'elle a représentés sont souvent dans des situations plutôt périlleuses. Samson, Holoferne, Sisera. Artemisia se fait remarquer par le grand-duc Côme II de Médicis, à Florence. Mais à cette époque, et pour longtemps encore, les femmes sont socialement mineures. Elles ne peuvent ni signer de contrat, ni acheter du matériel, ni diriger un atelier. Et pour qu'une femme artiste figure dans la liste des salariés du Grand-Duc, qui est son souhait, elle doit être unie à un homme qui exerce la même profession qu'elle. Une femme ne peut faire carrière qu'en association avec son époux, elle dépend de lui en tout. On lui présente un candidat qui est le frère de l'homme qui avait révélé l'affaire à Orazio et au pape. Une belle dot balaie les scrupules du jeune homme. Non, je vais rester sur la précédente. Le 29 novembre 1612, Artemisia épouse Pierantonio Sciatessi en l'église Santo Spirito in Sassia de Rome. Pierantonio avait 28 ans, à peine 10 ans de plus qu'Artemisia. Il était beau, décrit comme le plus joli garçon de la ville, élégant mais criblé de dettes. Et s'il était peintre, qualité indispensable pour qu'Artemisia puisse continuer elle-même à peindre, il avait un talent reconnu comme totalement médiocre. Au début, Artemisia éprouva pour lui une immense gratitude d'avoir accepté de l'épouser. Le 13 décembre 1612, Artemisia Sciatessi, elle a pris le nom de son mari, prenait la route de Florence, elle laissait son père à Rome, ils allaient rester séparés pendant 25 ans. Elle arrive donc à Florence. Elle y restera de 1613 à 1620. Après son mariage et la séparation de son père, elle signera ses toiles Lomi. Conscient du talent supérieur d'Artemisia, Pierantonio se distrayait de ses insatisfactions et de ses soucis en dépensant l'argent du ménage. Toute leur fortune passait dans l'acquisition de 1000 petits objets coûteux. Artemisia elle-même appréciait les belles robes et les bijoux. Elle avait porté à terme 4 enfants en 5 ans. Un seul allait survivre, une fille appelée Prudencia, du nom de sa mère. Au cours de son séjour à Florence, elle fréquentait la cour de Côme II de Médicis, qui mourra jeune de la tuberculose. Ils avaient à peu près le même âge. Elle fréquentait également Galileo Galilei, Michelangelo Buonarroti le Jeune, c'était le petit-neveu de celui qu'on appelle Michel-Ange, et Cristofano Allori, l'un des peintres toscans les plus célèbres dont elle était prise, et tous leurs amis. Voici un tableau de Cristofano Allori, Judith tenant la tête de l'offerme. Vous voyez que c'était quand même un excellent peintre, peinture conventionnelle, mais extrêmement raffinée, très élégante, avec un rendu des tissus précieux parfait. Elle entretient de bonnes relations avec Galileo Galilei, je parle d'Artemisia bien sûr, et restera en contact épistolaire avec lui bien après sa période florentine. Elle allait devenir, grâce à eux, grâce à toute cette bande d'amis que j'ai évoquée tout à l'heure, elle deviendra une femme spirituelle, cultivée, capable de jouir des plaisirs de l'esprit, de soutenir une discussion, de jouer du luth, un peintre enfin tel qu'on le comprenait à Florence. C'est une allégorie de l'inclination, un tableau d'Artemisia. Je vais expliquer le sens de ce titre, qui se trouve à la Casa Buonarroti à Florence. C'est une commande du petit-neveu du célèbre Michelangelo Buonarroti. Le petit-neveu s'appelait aussi Michelangelo, mais qu'on appellera le jeune. C'était un homme de lettres et de culture. Il a transformé la Casa Buonarroti de la rue Ghibellina à Florence en musée, à la gloire de son grand-oncle. Cette toile devait orner le plafond de la bibliothèque. Voici les termes utilisés pour commander le tableau. « Je voudrais, pour l'indication du plafond, une jeune femme pleine d'audace, qui serait dévêtue et qui incarnerait l'allégorie de l'inclination, l'allégorie de tous les penchants artistiques du divin Michel-Ange. » Je ne sais pas de quelle manière on peut voir une femme nue comme allégorie de tous les penchants artistiques, mais c'était l'idée. Artemisia a peint cette inclination de la seule façon qu'elle connaissait, nue et à son image. Elle revendiquait ainsi la beauté de son corps. Elle s'est représentée nue, mais quelques années plus tard, le pudique héritier de ce tableau fera recouvrir de voiles opaques la belle anatomie d'Artemisia. Les draperies bleues et blanches ont été ajoutées ont été ajoutés par Il Volterano, un peintre qui s'appelait en réalité Baldassare Franceschini Medite, originaire de Volterano. Semble-t-il, pour cacher cette nudité aux yeux des enfants de la maison. Pour l'anecdote, je vous rappelle qu'un siècle plus tôt, Daniele da Volterra s'était rendu célèbre pour avoir été chargé de faire des repeints de pudeur sur les personnages dévêtus du jugement dernier de la chapelle Sixtine, ce qui lui avait valu le surnom de Il Braghettone. Il avait été consciencieux au point de marteler les sexes de sorte qu'il a été impossible de supprimer les repeints. À croire que cette pratique était une spécialité des peintres de Volterra. Cette femme se présente avec une étoile au-dessus de la tête et une boussole, symbole de sa détermination. Elle tient délicatement l'instrument en cuivre dont l'aiguille est protégée par un verre. La jeune femme est confortablement assise sur un nuage. C'est une peinture apaisée. La subtilité iconographique illustre l'atmosphère d'érudition que Buonarroti avait créée dans sa maison. Les bons rapports d'Artemisia avec le commanditaire de cette œuvre aidèrent, en juillet 1616, à son admission à l'Accademia del Designo, l'Académie de dessin de Florence. Elle avait 23 ans. Cette académie est l'une des plus prestigieuses associations du monde de l'art. Elle était la première femme à accéder à cette distinction, ce qui va lui permettre d'acquérir son émancipation et sa liberté. Elle n'avait plus besoin de la caution de son mari pour exister professionnellement. Donc l'Académie de dessin de Florence est la première académie artistique apparue en Europe. Elle a été créée officiellement par Côme Ier de Médicis en 1563. Nous allons parler de Judith et Holoferne. Ce sont des œuvres de Botticelli, vous avez reconnu, hein? Voici deux pendants de Sandro Botticelli. La découverte du cadavre à gauche, du cadavre d'Holoferne, et le retour de Judith à droite. Ce sont des petits panneaux de 31 cm sur 24. Hein? Des petits panneaux. Ils sont au musée des Offices. L'histoire est tirée du livre de Judith, qui est l'un des livres deutérocanoniques de la Bible. Les Juifs ont toujours nié l'inspiration divine de ces livres deutérocanoniques, mot qui signifie « caché, douteux ». Ces livres ne se trouvent pas dans toutes les versions de la Bible. Moi, j'ai une version de la Bible où il n'y a pas le livre de Judith, par exemple. C'est une Bible, probablement, que j'ai dû shipper dans un hôtel... dans un hôtel d'un pays protestant, enfin voilà. Judith était une belle veuve de Béthulie. Lorsque les armées assyriennes s'emparèrent de la ville, elle parvint à entrer dans le campement accompagnée par sa servante. Charmée par sa beauté, Holoferne, général en chef du roi assyrien Nabuchodonosor II, la convia à dîner. Judith incita Holoferne à boire et celui-ci tomba ivre mort sur son lit. Et voici ce qui est écrit dans la Bible. Elle s'avança alors vers la traverse du lit proche de la tête d'Holoferne, en détacha son cimeter, puis s'approchant de la couche, elle saisit la chevelure de l'homme. Par deux fois, elle le frappa au cou de toute sa force et détacha sa tête. Elle fit ensuite rouler le corps loin du lit. Peu après, elle sortit et donna la tête d'Holoferne à sa servante, qui la mit dans la besace à vivre. Et toutes deux sortirent du camp, comme elles avaient coutume de le faire, pour aller prier. Une fois le camp traversé, elles contournèrent le ravin, gravirent la pente de Béthulie et parvinrent aux portes de la ville. Donc auparavant, la plupart des artistes, comme Botticelli, qui peignait Judith Holoferne, avaient choisi de représenter la fuite des deux femmes portant la tête d'Holoferne. Le premier à peindre la scène de décapitation, c'est Michelangelo Merisi, le Caravage. Voici donc Judith Holoferne. Le Caravage a été le premier à représenter le moment le plus violent, celui où Judith tranche la tête de la victime. Quand j'ai vu ce tableau en 1999 à la Galerie Barberini, il était en cours de nettoyage. On allégeait le vernis. Seule la tête de Judith avait retrouvé ses couleurs originales. Il a dû retrouver depuis toute l'intensité de ses couleurs. Et voici la version Artemisia. C'est un tableau qui se trouve à Capodimonte, au musée Capodimonte de Naples. Artemisia, comme Caravage avant elle, rendit compte de ce même moment. On ne sait pas si Artemisia s'est inspirée du tableau de Caravage. On ne sait pas si elle connaissait le tableau de Caravage. Mais en tout cas, elle avait toutes les raisons de le représenter ainsi. À 19-20 ans, avec Judith et Holoferne, Artemisia parvient à créer une des images les plus fortes de cette scène biblique dans une étonnante composition. Les critiques d'art considèrent que dans cette œuvre, Artemisia rompt vraiment avec la technique paternelle et que l'œuvre doit être considérée comme une déclaration d'indépendance. C'est une toile typiquement caravagesque. Artemisia montre comment deux femmes pouvaient unir leurs forces pour terrasser un soldat musclé. De nombreux commentateurs ont associé cette représentation de Judith au traumatisme causé par son viol. Le grand défi pour elle est d'avoir rendu la figure humaine en pleine action. Difficulté que les peintres évitaient, à l'exception de Caravage. La version d'Artemisia est beaucoup plus violente, originale et audacieuse que celle de Caravage, à mon avis. Je vénère Caravage, mais dans cette œuvre, j'estime qu'Artemisia lui est supérieure. Dans la plupart des autres peintures, la servante est une femme âgée qui attend de recevoir la tête d'Holoferne dans son sac. Dans la toile d'Artemisia, la servante est une jeune femme vigoureuse qui participe activement à l'action. Agenouillée sur le corps d'Holoferne, elle le maintient fermement, tandis que Judith lui tranche calmement la gorge. Le sang gicle sur le drap blanc et dégouline abondamment. Le blanc, le rouge et le bleu explosent dans cette toile. L'intensité du bleu, une telle intensité du bleu ne peut être rendue qu'avec du lapis lazuli, on y revient toujours. Si l'on peut constater certaines maladresses anatomiques, il y a une telle intensité, un tel dynamisme dans la composition que le spectateur ne perçoit ces maladresses que lorsqu'il s'est remis de la sidération qu'il a ressentie à la vue du tableau. Sidération que je vous ai dit avoir ressentie à mon tour. L'enchevêtrement des membres, éclairé par une lumière venant de la gauche, dramatise la scène et renforce l'impression de lutte et de chaos soulignée par les draps chiffonnés. Le corps d'Abraham marque fortement l'axe vertical. Les deux bras obliques renforcent le mouvement dynamique de Judith en train de décapiter Holoferne. Le cadrage est très serré, accentue la puissance et la violence de l'image. Il est cependant probable que le tableau de Capodimonte a été légèrement coupé sur les côtés. La sauvagerie de cette Judith, sa détermination en tranchant le cou du général, sa façon puissante d'user de l'épée comme d'un couteau de cuisine, et le réalisme du sang qui jaillit, les muscles bandés dans l'effort, jamais scène de meurtre n'avait été peinte avec une violence aussi crue. Dans la seconde version du tableau de la Galerie des Offices, le cadrage est plus large et les couleurs des robes sont moins vives. En revanche, les giclées de sang sont beaucoup plus abondantes et étudiées. Vous voyez avec quel réalisme Artemisia a peint d'abord beaucoup plus de giclées que dans la première version, et puis les giclées se séparent en petites gouttes, hein, comme dans la réalité. Très réaliste. Sans compter que ça dégouline sur le drap blanc. Judith et sa servante Abraham avec la tête d'Holoferne au Palazzo Pitti. Cette toile caravagesque décrit une scène nocturne. C'est un moment d'angoisse et d'hésitation où les deux femmes s'apprêtent à quitter la tente du général ennemi qu'elles viennent d'assassiner en décapitant. Toutes deux regardent vers la droite pour voir si leur fuite est possible. L'éclairage caravagesque qui frappe les deux femmes provient de la gauche. On peut imaginer qu'une bougie est posée près du lit d'Holoferne. Toute la toile est occupée par les corps des deux femmes, l'une de face, l'autre de dos. Ces corps dégagent une impression de puissance et de vigueur. Les deux corps parallèles sont légèrement inclinés, ce qui évoque un mouvement dynamique vers la droite. Une grande diagonale traverse la toile, le turban d'Abra, sa manche et son bras. Vous voyez, cette grande diagonale, enfin, c'est pas vraiment une diagonale, une grande oblique qui traverse la toile et qui isole Judith. Le visage de Judith est encadré par le turban ivoire d'Abra, la grande manche blanche et l'épée que l'héroïne porte sur son épaule. Une ligne opposée plus courte, le pan de tissu du turban, oriente notre regard vers Judith. Donc il y a non seulement cette oblique qui isole Judith et qui attire l'attention du regard sur Judith, mais en plus, il y a ce pan du turban qui est une ligne directrice vers le visage. C'est typiquement caravagesque, c'est superbe quoi. Artemisia porte une attention soutenue aux étoffes, à leur matière, à leur drapé, à leur coloris. On remarque la virtuosité du costume de la servante vue de dos, le magnifique drapé du turban, de la chemise et de la robe dans une délicate harmonie de couleurs. La robe est traitée en larges et puissants coups de pinceau. Je parle de cette partie-là. Là, il n'y a aucune fioriture, c'est traité à larges coups de pinceau. Artemisia a été célèbre pour son élégance et l'on retrouve ce souci dans la somptueuse robe contemporaine de Judith, les dentelles et les bijoux. Sa coiffure est ornée d'un bijou antique, pierre précieuse taillée ou camée avec une monture en or et une perle pendante, des perles en gouttes aux oreilles. Ces bijoux devaient appartenir à Artemisia car ils figurent dans plusieurs de ses œuvres. Et des perles sont cousues sur le galon d'or de la robe. Remarquons aussi la tête ciselée, c'est peut-être une tête de faune, qui orne le pommeau de l'épée de Parade. Vous voyez le bijou dans les cheveux, les pendentifs en perles, et ici, si on grossit, on voit des petites perles fixées sur les broderies. Et là, cette tête à l'extrémité du sabre. Du cimetière. Par la différence des costumes des deux femmes, Artemisia établit la différence sociale qui sépare la noble Judith et sa servante. Judith est vue de profil, sa posture rappelle celle du David. Ah, ben voilà un gros plan, bon voilà. Sa posture rappelle celle du David et Michel-Ange. Simplement, le mouvement du bras est inversé. Hein, ce n'est pas le même bras qui est replié pour tenir le sabre. Mais l'inspiration est quasiment certaine. Dans cette magnifique composition, l'œil parcourt inlassablement la surface de la toile. À chaque étape de son cheminement, l'œil du spectateur peut contempler un morceau de bravoure de l'artiste. Donc je vous rappelle ce que je disais au départ, c'est la manière vigoureuse de peindre, parfois très énergique donc, mais ce qui n'empêche pas Artemisia de peindre des détails extrêmement précis avec beaucoup de raffinement. Oups ! Qu'est-ce qui me fait le petit là encore ? Au secours ! on en est là.
On démarre au même endroit.
Voilà. Alors on va voir une série de portraits qui sont des, même si le titre ne le dit pas, qui sont des portraits d'Artemisia, hein, des autoportraits. Voici un autoportrait en martyr de 1615. 1615, elle a 22 ans. Je vous signale qu'un autoportrait, un autre que celui-ci, en buste, attribue Artemisia, où elle s'est représentée en renommée et passée en vente à Drouot le 14 décembre 2012, récemment. Il était estimé 15 à 20 000 euros, il a été vendu 68 750 euros. Quand il a été mis en vente, c'était une simple attribution, mais la qualité du tableau était telle que les acheteurs et que les spécialistes ont considéré que c'était vraiment un original d'Artemisia, donc le prix s'est envolé. Voici un autoportrait au luth qui est à Minneapolis. C'est un beau tableau qui est apparu sur le marché de l'art en 1998. Artemisia avait appris à jouer du luth et elle était souvent invitée à en jouer chez les personnalités qu'elle fréquentait. Ses célèbres cheveux bouclés châtain clair, presque roux, le front haut, de grandes mains, le cou un peu épais, c'est une femme plantureuse correspondant au canon de beauté de l'époque. Dans une lettre de 1620, elle annonce fièrement à son amant, Francesco Maria Marenghi, on va reparler de lui, parce qu'elle restera un certain temps avec lui, c'était un aristocrate florentin, elle lui annonce fièrement donc qu'elle a tellement grossi qu'il ne la reconnaîtrait pas. Elle était très fière. Elle lui a probablement offert cet autoportrait. Voici le portrait de son amant, Francesco Maria Marenghi, qui se trouve au Louvre, et c'est un portrait de Simon Vouet. Voici une sainte Catherine d'Alexandrie, qui est à la Galerie des Offices. Malgré ce titre, il s'agit aussi d'un autoportrait d'Artemisia. Il arrive souvent dans les toiles d'Artemisia que les plantureuses et énergiques héroïnes aient les traits du visage que l'on retrouve dans ses portraits ou autoportraits. Souvent, le commanditaire de ces toiles désirait avoir une image rappelant visuellement l'auteur dont la réputation allait croissant. Certains collectionneurs souhaitaient avoir à la fois un tableau d'Artemisia et son autoportrait. On cumulait les deux comme ça. Et encore une Sainte-Cécile, où on devine, on reconnaît aussi Artemisia. C'est probablement un autoportrait Sainte-Cécile jouant du luth. Je vous rappelle que c'était son instrument de prédilection. Yaël et Sisera. Encore un peu de sang. Sisera était le général de l'armée de Jabin, roi d'Atsor. Il fut envoyé par son maître contre Barak et Déborah, qui avaient assemblé une armée de 10 000 hommes sur le mont Tabor. Sisera marcha contre eux avec 900 chars armés de faux et un grand nombre de gens de pied. Mais Barak, avec sa petite armée, fondit avec tant d'impétuosité sur celle de Sisera qu'il la mit en déroute et tua un grand nombre d'hommes. Sisera prit la fuite. Et comme si ses chevaux ne couraient pas assez vite à son goût, il descendit de son char et s'enfuit à pied. Il arriva près de la tente de Héber le Cinéen, et sa femme Yaël le pria d'entrer, le couvrit d'un manteau et lui donna à boire du lait pour le désaltérer. Voyant s'il sera profondément endormi, Yaël lui enfonça dans la tempe avec un marteau un des gros clous qui servait à tenir la tente. En même temps, Barak arriva et elle lui fit voir Sisera nageant dans son sang et sans vie. Donc une femme s'apprête à planter un clou dans la tente d'un homme assoupi. La scène est représentée dans la salle d'un palais, alors que dans le livre des juges, d'où est extrait l'épisode, le crime se déroule sous une tente. Les deux protagonistes sont montrés en plan serré. Yaël est en pleine action, elle s'apprête à abattre son maillet sur le clou qui va transpercer le crâne de Sisera. Le clair-obscur est typiquement caravagesque, remarquant toujours l'élégance de la robe de Yaël et la ciselure du pommeau de l'épée de Sisera. Les couleurs sont en nombre très limité. Artemisia a signé sa toile sur le socle en pierre d'une statue, en latin, Artemisia Lomi. Je vous rappelle que elle a pris, quand elle était à Florence, elle a pris le nom de Lomi. Facibat, 1620. Elle repart de nouveau à Rome, où elle restera de 1620 à 1627. En raison des nombreuses dettes accumulées à la cour de Florence, Artemisia fuit Florence en 1620 avec son mari et ses enfants. Elle se réfugie à Prato, dans une villa propriété de son amant Marenghi. Puis, elle retourne à Rome pour devenir le chef de file du mouvement caravagesque. Elle peut s'installer à nouveau dans le quartier des peintres et se mesurer à tous les autres artistes. Elle s'essaye à tous les genres, triomphe sur tous les fronts. Tableau d'hôtel, portrait de duchesse, nature morte, allégorie mythologique, désormais, elle signera ses toiles sous le nom de Gentileschi. Auréolée de succès, elle peine à honorer toutes les commandes tant elles affluent et elle fréquente les peintres les plus renommés, Simon Vouet, Massimo Stanzione. Voici donc un portrait d'Artemisia par Simon Vouet. J'attire votre attention sur le côté très conventionnel. Elle est très élégamment vêtue, il n'y a aucun problème, elle est bien assise, de face, elle pose, quoi. Vous verrez que le dernier portrait que nous regarderons, un autoportrait d'Artemisia, est à l'encontre totale de ce portrait très conventionnel, qui est beau par ailleurs. En 1623, son mari disparaît. On n'entendra plus parler de lui. Il s'en va et il ne reviendra plus. Ça l'arrange bien. Élevant seule ses enfants, elle a à présent toute liberté pour recevoir son amant. Elle est notamment reconnue comme portraitiste, surtout auprès des dames qui osent plus facilement poser sous le regard d'une femme. L'un des chefs-d'œuvre de cette période prolifique est très certainement le magnifique portrait d'une dame assise, daté de 1620, qui est dans une collection particulière. En mars-avril 1620, dans ses lettres à son amant Maringhi, elle décrit ses rencontres avec Caterina Savelli, princesse d'Albano, par son mariage, à laquelle elle rend visite dans son palais de Monte Savello, près du lac d'Albano, à 30 km au sud de Rome, probablement pour des séances de pose. La princesse, que vous voyez, âgée de 31 ans, appartient à la famille papale des Savelli. Dans la famille, il y a eu deux papes au XIIIe siècle, Honorius III et Honorius IV. Quand on avait un pape dans sa famille, on en profitait pour se remplir les poches, et ça suffisait à la famille pour survivre quelques siècles après. La puissance et la richesse de la famille se manifestent par la somptueuse robe de velours noir rebrodée et gancée de fil d'or, des boutons en or, du bustier en maille d'or. Tous les détails sont rendus avec une très grande minutie, ainsi que les bijoux, le collier de diamants, les pendants d'oreilles en diamants et perles, et une petite bague. Dans ses cheveux, quelques fleurs. Elle tient un gant dans sa main droite. Les précieuses dentelles entourent un beau visage délicatement peint. Les mains sont finement étudiées. Ultime détail, la jeune aristocrate se reflète dans le montant du fauteuil. Ici. Il y a son portrait qui se reflète là. Mais il est quasiment possible sur l'original, hein, ce tableau était présent à l'exposition de Paris, de compter les mailles. C'est absolument fabuleux. Tous les points de broderie sont évoqués, c'est extraordinaire. Voici ce qui se disait à Rome à propos des portraits d'Artemisia. Il y eut une grande clameur qui se répandit dans la ville à propos de ses peintures et particulièrement de ses portraits de grands personnages qu'elle avait excellemment peints. Le portrait d'un gonfalonier qui se trouve à Bologne. Ce tableau est signé et daté. Le modèle serait Costanzo di Giassone, membre de l'illustre famille bolognaise des Vizzani, pas des Viviani, hein, des Vizzani, qui mourut cette année-là à l'âge de 39 ans à Rome, où il exerçait la charge de gonfalonier. C'était le capitaine de cavalerie de la garde du pape Grégoire XV, il y avait eu un changement de pape, et sénateur de Bologne. Il était chargé de porter le gonfalon, c'est-à-dire l'étendard du pape. La figure du chevalier se découpe au centre du tableau dans un espace délimité par le sol et le mur, dépourvu d'ornements. La lumière vient de la gauche et éclaire les éléments emblématiques liés à la charge et au rang du modèle. L'étendard avec les armoiries pontificales, qui est à droite, hein. Le casque au cimier garni de plumes tricolores, rouge, blanc, noir, posé sur un meuble couvert de velours rouge, la croix d'argent tréflée sur la poitrine, et l'écharpe verte de l'ordre des saints Maurice et Lazare. Avant, il y avait deux ordres séparés, Saint-Maurice et Saint-Lazare, et les deux ordres avaient été associés. Artemisia a travaillé les reflets sur l'armure. La lumière met en valeur les plis de la fraise et les poignets, les broderies d'or à l'épaule et sur le fourreau de l'épée. Le réalisme du visage donne une idée du caractère du personnage. Dans ce portrait en pied, l'influence de Simon Vouet est manifeste. Entre 1627 et 1630, Artemisia s'installe à Venise, sans doute à la recherche de meilleures commandes. Elle y vit avec son amant Nicolas Lagny, qu'elle avait connu à Rome 2 ans plus tôt. Elle a changé. Il était luthiste dans l'orchestre du roi d'Angleterre Charles Ier. Il composait, chantait et jouait également du luth, ce qui peut rapprocher. Voici le portrait de Nicolas Lagny par Vandyck. Ça vous donne un peu l'idée de l'importance du personnage. Hein. Pouvoir se faire portraiturer par Vandyck, il faut avoir les moyens. Et voici un autre portrait moins officiel de Nicolas Lagny en train de jouer du luth. Il était à Venise afin d'acheter des œuvres d'art pour le comte du roi d'Angleterre, qui était un très grand collectionneur. J'avais évoqué ce collectionneur à propos de la collection Campana, si vous vous en souvenez. Elle se rend à Naples de 1630 à 1654. Elle finira sa vie à Naples, d'ailleurs. En 1630, Artemisia s'établit définitivement à Naples, à la cour du vice-roi, le duc d'Alcala, qui sera son mécène et son amant, et dont elle aura une fille. C'est à Naples que, pour la première fois, Artemisia reçoit une importante commande de 3 toiles pour la cathédrale de Pozzuoli, illustrant la vie de San Gennaro, Saint-Janvier. Dans son atelier napolitain, elle emploie une armée d'apprentis pour broyer, mélanger ses couleurs, brosser ses fonds, construire ses architectures. Autour d'elle affluent de jeunes artistes. Le plus doué d'entre eux est Viviano Codazzi, qui arrive de l'atelier d'Agostino Tassi, qui travaillait pas très loin de chez elle. Codazzi deviendra connu pour ses peintures de paysages avec des architectures. Il y a de belles toiles de lui au musée de Béziers. Artemisia continue de puiser son inspiration parmi les femmes fortes de la Bible et des héroïnes de l'histoire, Suzanne, Judith, Lucrèce, Cléopâtre, et ici Esther. Esther devant Assuérus, qui est au Metropolitan de New York. Ce tableau a probablement été peint un peu de temps après son arrivée à Naples. Bien que juive, Esther a épousé Assuérus, le roi de Perse. Son oncle, Mardochée, surprend un complot mené par le ministre Aman qui calomnie les Juifs et obtient du roi l'autorisation de les exterminer. Malgré l'interdiction, il était interdit de se présenter devant le roi, même sa femme. Esther se présente devant le roi pour lui faire part du complot, mais à la vue du roi, elle s'évanouit. Devant la beauté d'Esther, le roi lui pardonne et punira Aman. Remarquons l'élégance des attitudes, le raffinement des tissus, le chatoiement des couleurs. Même si le roi est somptueusement vêtu, toute la lumière est dirigée sur Esther. C'est une merveille, ce tableau. La naissance de Saint-Jean-Baptiste qui est au musée du Prado. En peignant cette toile, Artemisia répond à une commande du roi Philippe IV d'Espagne pour son palais de Buen Retiro. Cette peinture faisait partie d'un ensemble de 6 toiles illustrant les épisodes de la vie de Saint-Jean-Baptiste. C'est la seule œuvre d'Artemisia dans cet ensemble de 6 toiles. Élisabeth est à gauche avec Zacharie en retrait et dans l'ombre, complètement à l'écart. Le groupe le plus important est constitué par 4 jeunes femmes aux vêtements très colorés. Elles sont rassemblées autour de l'enfant en pleine lumière, c'est une nativité. Ce groupe est disposé dans une construction pyramidale. Autour de l'enfant, vous voyez la pyramide très nette, une composition assez répandue en peinture. Avec une ouverture sur un paysage en haut à droite. Ça représente Samson et Dalila, hein? Qui est au musée de Naples. C'est la seule toile d'Artemisia consacrée à ce thème. La construction est originale et savante. On perçoit rapidement un rythme ascendant depuis la tête brune de Samson, le séduisant décolleté de Dalila, son visage qui nous incite à regarder celui de sa servante, d'allure assez masculine. La grande diagonale de la composition accompagne le mouvement des personnages. Dalila occupe le centre de la toile, elle est reliée à Samson par son bras droit, elle est reliée à sa servante par le regard et les mains, Elle vient de couper une mèche de cheveux de Samson qu'elle confie à sa servante. Et elle tient ici une mèche de cheveux. Je décris un petit peu la composition qui est extrêmement intéressante. Il y a un jeu de courbe et de contre-courbe dans ce mouvement ascendant. Hein, c'est très net. On parle de Samson, Judith et puis la servante. Dalila et la servante. Et il faut regarder les courbes ascendantes. Il y a d'abord ce mouvement du bras, qui est renforcé par le mouvement de la tête et du dos, qui est repris par le mouvement de la main et par l'épaule de Dalila, la tête de Dalila, l'épaule de la servante et la tête de la servante. Il y a une succession de courbes ascendantes, mais ce n'est pas fini, parce qu'il y a des contre-courbes, et il y a la courbe du décolleté, la courbe des deux mains enlacées, la contre-courbe encore de ce bras. Donc c'est un jeu de courbe et de contre-courbe d'un mouvement ascendant, c'est extraordinaire. Remarquons aussi le raffinement de la robe de l'héroïne avec ses broderies d'or et ses dentelles et les couleurs fortes qui se succèdent, le bleu, le brun, le violet, le blanc et le rouge du petit nœud qui se détache sur la manche. Tout cela pour attirer le regard. C'est un rouge vif en réalité. Hein. Un très très beau tableau, très intéressant. Un épisode à Londres. En novembre 1638, Artemisia se rend à la cour d'Angleterre à la demande pressante du roi Charles Ier, le grand collectionneur. Elle y retrouve son père. Orazio est là-bas, depuis quelque temps. Il est possible qu'elle l'ait aidé à terminer. Une commande de 9 toiles sur le thème des muses destinée à orner le hall de la maison de la reine à Greenwich. Voilà la maison de la reine à Greenwich, qui existe toujours. L'année suivante, donc en 1639, Orazio meurt. Les splendides funérailles se déroulent le 7 février 1639 dans la chapelle de Somerset House, une autre résidence royale. Il est enterré dans la crypte. Après la mort d'Orazio, Artemisia restera près de 2 ans en Angleterre. Elle y peindra des portraits dont nous ne savons rien. Retour à Naples, 1641. Une Bethsabée au bain. Cette toile est réapparue sur le marché de l'art en 2011. Vous voyez le côté très récent des découvertes, hein, c'est très très intéressant. Bethsabée est occupée à sa toilette, aidée par 2 servantes. Ce thème permet de mettre en valeur un nu féminin. À l'arrière-plan, on voit le roi David sur une terrasse de son palais. Il est là, à son balcon. Il est en train de surveiller Bethsabée parce qu'il va l'épouser. Hein. Il n'est pas comme Agostino, lui. Hein. Il existe plusieurs versions sur ce thème, elles sont toutes différentes. Artemisia reprend certains éléments à l'aide de carton et grâce à un savant assemblage, elle en remanie d'autres et modifie le résultat final pour que chaque version soit unique. Par exemple, la forme du bassin de métal orfévré varie dans chaque tableau. Il y a toujours un beau drapé des tissus, une balustrade de pierre sépare l'espace. Et il existe plusieurs, je ne sais pas le nombre, mais il y en a au moins 3 ou 4 tableaux sur le même thème. Et par exemple, ce bassin d'argent orfévré, la forme varie, les fissures sont différentes, etc. Je vous montre un autre exemple de moins bonne qualité, mais pour vous expliquer mon propos. Il y a 4 personnages, mais le personnage de gauche est exactement le même. Ah, je me suis trompé. Que dans ce tableau-là. Mais là, il y a 3 personnages. Là, il y en a 4, etc. Donc, elle modifie les détails d'architecture, elle modifie le nombre de personnages, elle en rajoute, elle en retire à chaque fois. Le tableau est unique par ce procédé. Judith et sa servante à bras avec la tête de Holoferne, qui est au musée de Cannes, donc c'est la seule œuvre d'Artemisia dans une collection publique française, au musée de la Castres à Cannes. Elle reprend une composition de 1625 qu'elle a améliorée. Cependant, si on la compare avec une autre version qui est au musée de Capodimonte, on constate que la peinture a été amputée sur les bords, à gauche, à droite et peut-être en haut et en bas. Le home à gauche est anormalement coupé. Vous voyez, c'est un home hein, avec ses plumes. Et sur la version de Capodimonte, on voit nettement le home. Donc, pour des raisons diverses, hein, par exemple, il peut y avoir un petit accident, ou bien on voulait faire rentrer le tableau dans un lambris de mur, on coupait un petit peu. Donc on ne connaît pas les raisons qui sont à l'origine de cette intervention. L'éclairage dramatique de la scène suivant la décapitation est de grande qualité. Remarquons un beau traitement des tissus, les objets finement ciselés, le bracelet de Judith, le gantelet de fer, le casque, le bouclier. Judith se protège de la lumière de la bougie pour observer ce qui se passe hors champ. L'ombre de sa main se projette sur son visage. Elle tient une épée richement orfévrée qui est celle de l'Holoferne. Le mouvement de torsion de Judith exprime sa tension et son inquiétude, tandis que la servante enveloppe la tête ensanglantée. L'épée et les bras forment un V. L'épée se trouve sur la grande diagonale du tableau. Son extrémité se trouve sur l'axe médian horizontal qui est souligné par le bord de la table. La main et la poignée de l'épée sont au centre géométrique du tableau. Alors, on ne voit malheureusement... On ne voit pas très bien l'épée, mais l'épée, elle est vraiment sur la diagonale. Cet horizon, la main est sur l'axe médian du tableau et qui est souligné par le bord de la table. Et la main qui tient l'épée est absolument au centre géométrique du tableau. C'est extrêmement rigoureux. Et je terminerai par célèbre toile. C'est un autoportrait en allégorie de la peinture qui est dans la collection royale de Windsor. Cette toile a été réalisée à Londres pendant son séjour comme peintre à la cour de Charles Ier. La composition est audacieuse. Artemisia s'est représentée en contre-plongée, sous un éclairage violent. Une grande diagonale traverse la toile, s'arrondit et s'appuie sur le bras gauche qui soutient la palette. Vous voyez cette grande diagonale, très très ferme, mais qui s'arrondit avec le bras et qui se termine par une horizontale, ce qui cale complètement la composition. La peinture en cours de réalisation n'est pas vraiment montrée. On ne sait pas ce qu'elle peint, hein, mais la véritable œuvre en cours, c'est l'autoportrait lui-même. C'est un somptueux autoportrait. Pour se peindre en demi-profil dans cette position originale, Artemisia a dû disposer un jeu de glace en équerre à quelques mètres de son chevalet. Révolution dans l'histoire de l'autoportrait. L'artiste ne se représente pas assis devant sa toile, bien vêtu, l'œil paisiblement tourné vers le spectateur. Comme dans le tableau de Simon Vouet, j'ai attiré votre attention tout à l'heure. Mais en tablier, les manches relevées jusqu'au coude, la chevelure en désordre, elle livre physiquement bataille, elle est concentrée sur ce qu'elle fait. Toute sa personne est consacrée à l'acte de peindre. Le peintre devient peinture, elle est l'incarnation de la peinture. Elle fait aussi une démonstration brillante de ses talents de peintre par la lumière savante et les étoffes soyeuses. Remarquez le vert précieux de la manche. La représentation de l'allégorie est à remarquer. La chaîne en or, le masque, la robe aux reflets changeants sont des attributs que recommande un traité d'iconologie paru en 1593, publié par Cesare Ripa pour représenter la peinture. Au bout de sa chaîne, il y a un petit masque. Et tout cela sont des éléments significatifs quasiment obligatoire pour représenter une allégorie de la peinture. Donc ce traité s'appelait Iconologia, c'est un dictionnaire que l'on connaît et qui existe toujours, hein, un dictionnaire des symboles et des allégories dont les peintres devaient user pour représenter une abstraction comme la sagesse ou l'éloquence, etc. Tous les peintres s'y référaient. C'est un code d'iconologie ou d'iconographie. Artemisia est décédée à Naples, probablement au début de l'année 1654, dans les premiers mois. On ne connaît pas sa date exacte de mort. En conclusion, oubliée au XVIIIe et XIXe siècle, Artemisia devra attendre plus de deux siècles pour être reconnue de nouveau par le milieu artistique. La rétrospective du musée Mayol retraçait pour la première fois en France son parcours de Rome à Naples. Toute sa vie, elle a affronté de nombreux obstacles qu'elle a surmontés et elle s'est battue pour être reconnue en tant que peintre pour son seul talent. Tous les individus ne réagissent pas de la même façon face à des situations traumatisantes. Certains sombrent dans la dépression, mais d'autres surmontent le choc et leur énergie vitale se trouve même renforcée. La plupart des femmes se seraient peut-être effondrées après un viol brutal comme celui qu'Artemisia a vécu. Mais on sent qu'une détermination formidable, constante, l'habite et lui fait vaincre tous les obstacles obstinément. Elle lutte contre son père pour affirmer sa personnalité, surmonte le traumatisme de son viol. Elle se marie, quitte un père envahissant, domine la douleur causée par la perte de trois de ses enfants, obtient la reconnaissance de ses pères et acquiert sa complète indépendance, tant matérielle qu'intellectuelle. Elle laisse partir un mari devenu inutile, qui vit à ses crochets. Elle a des amants, tous beaux, intelligents et cultivés, et poursuit son œuvre toujours curieuse, active, volontaire. Sa peinture est empreinte d'une énergie et d'une vitalité débordante. Suzanne et les vieillards, Judith et Holoferne, Yaël et Cicéra, peindre ces sujets n'avait rien d'exceptionnel, mais personne n'y est revenu si souvent, avec une telle intensité et avec la colère contenue d'Artemisia. Un critique d'art a écrit « Nous ne devrions pas sous-estimer le rôle joué par la colère dans l'œuvre d'Artemisia, non seulement envers Tassie, mais aussi envers son père et la vie qui a été la sienne, tant du point de vue professionnel que privé. » La sensualité réaliste et sans concession de sa peinture et la noirceur des sujets traités construisent sa réputation, fascinent de nombreux artistes de son temps et contribuent à la hisser au-dessus des autres femmes peintres que compte le XVIIe siècle. Elle a fréquenté ou rencontré tous les grands artistes de son temps. Tous les grands collectionneurs ont voulu acquérir ses œuvres. Il est certain que de nombreuses toiles sont encore à découvrir et l'étude de son œuvre est loin d'être achevée. Que savons-nous de ces bouquets de fleurs pour lesquels elle était célèbre en Europe? Que savons-nous de ces muses, de ces cris, de ces anges de la passion? Quelle évolution entre la jeune fille illettrée du quartier des peintres et la femme raffinée et épanouie, sûre d'elle-même et de son talent, qui participe à des concours de poésie parmi les érudits de Venise, ou qui peut jouer du luth dans les cours européennes et citer des classiques. Artemisia a réussi le pari impossible pour une femme de son époque de s'affranchir des lois de la société. Dans une lettre datée du 13 novembre 1649, Artemisia écrit à Don Antonio Ruffo, un collectionneur de Messine, « Vous trouverez en moi l'âme de César dans un corps de femme. » Je vous remercie.